Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Academy, ici même, sous la coupole, pour y parler de votre dernier essai intitulé « Continuer l'histoire » aux éditions Fayard, 150 pages, courtes et denses, dans lesquelles vous revenez sur les grands principes, vos principes et vos analyses des relations internationales. Je rappelle que vous étiez ministre des Affaires étrangères entre 1997 et 2002, que vous avez bien connu François Mitterrand. Vous présidez d'ailleurs l'Institut François Mitterrand depuis 2003. Vous avez beaucoup écrit sur lui. Rappelons Un dessin, un destin chez Gallimard, c'était en 2006. Et 10 ans plus tôt, vous aviez également publié une véritable somme sur François Mitterrand, 800 pages publiées chez Fayard, intitulée « Les mondes de François Mitterrand ». Vous avez travaillé...
C'était sur sa politique étrangère.
Alors voilà, justement, je voulais vous poser une question justement à ce propos. Quels étaient les grands moments de politique étrangère que vous avez pu garder de François Mitterrand ?
Oh, il y en a tellement. Ça a duré 14 ans. Ce qui est frappant à propos de ces deux septennats, c'est que c'est lui qui était président quand le monde bipolaire s'est terminé. C'est achevé, le monde bipolaire de la guerre froide, le monde américano-soviétique, puisqu'il était là et il a eu à gérer pour la France cette transition historique, réellement, sans forcer sur les mots, c'est-à-dire la période 89, la chute du mur, et puis la fin de l'Union soviétique, qui du coup a permis la réunification allemande, a libéré les pays d'Europe de l'Est, leur a permis de commencer leur chemin vers l'Europe. Donc ça, c'est quand même la grande, grande charnière des années 89, 90, 91.
À l'époque, il avait eu l'idée, me semble-t-il, d'intégrer ces pays d'Europe de l'Est dans une vaste confédération, immédiatement, de les accepter, pas forcément sur des critères économiques comme c'est le cas pour l'Union européenne,
mais
immédiatement de leur donner un signe.
En effet, parce que contrairement à une petite polémique politicienne minable de l'époque, il n'avait pas... Il n'avait aucun retard sur l'événement. Il avait d'ailleurs dit à Helmut Schmidt dès 1981 que l'Union soviétique s'effondrerait dans un délai maximum de 10 ou 15 ans. Et donc, Schmidt et lui verraient la réunification allemande, ce qui s'est produit. Mais il a souvent fait des propositions trop tôt. Trop tôt, trop vite, à mon avis en tout cas. Et ce qui fait que les gens n'ont pas compris de quoi il parlait. Il n'était pas du tout en retard sur l'événement. Et c'est typique dans le cas que vous citez, puisque dès le 31 décembre 1989, alors que les gens n'avaient même pas encore intégré que réellement les choses allaient changer, que l'Allemagne allait être réunifiée, etc., il avait parlé d'une confédération européenne pour accueillir sur un terrain politique, mais pas encore l'adhésion à l'Union européenne en tant que telle, tous les pays qui allaient être bientôt candidats, comme la Pologne, comme les Tchèques, comme, etc. Et à l'époque, ça n'avait pas été compris, et puis il y a eu tout un courant très atlantiste en Europe de l'Est, qui était contre ce projet parce qu'il croyait pouvoir entrer dans l'Europe tout de suite, automatiquement, comme dans l'OTAN. Et d'autre part, François Mitterrand, pour des raisons un peu gaulliennes, historiques et géographiques, pensait que la Russie avait une place dans cette organisation, alors que les nouveaux membres voulaient surtout plus jamais entendre parler de la Russie et être uniquement dans une organisation avec les États-Unis. Ce qui les intéressait, d'ailleurs, c'était beaucoup plus l'OTAN que l'Europe, en réalité, à l'époque, et ils parlaient eux-mêmes, à commencer par avec la Vavel, de structures euro-atlantiques. Donc, une belle idée de Mitterrand, qui, si elle avait été mise en œuvre, nous aurait permis d'affronter d'une façon beaucoup plus sereine et calme et méthodique l'élargissement. Alors on lui dit, mais c'est honteux, vous voulez mettre ces pays dans un parking alors qu'il faut les faire rentrer dès demain matin dans l'Europe. Et Mitterrand disait, ils ne peuvent pas rentrer dans l'Europe demain matin, c'est très compliqué, il faudra qu'ils se préparent, ça va bien prendre 15 ans, voire plus. 15 ans, c'était en 89, ils sont rentrés en 2004. 15 ans, c'était bien vu. Sauf qu'à l'époque, l'opinion a mal réagi à ce que disait Mitterrand en disant vraiment, c'est un homme archaïque, il ne comprend rien. Il avait trop compris. Mais il a lancé ça trop tôt. Voilà, c'est l'occasion de parler de ça. Je vous en remercie parce qu'on a oublié cette proposition de confédération européenne qui aurait été donc politique pour que tous ces pays soient dans une relation d'égalité politique tout de suite avec nous, sans attendre le moment où ils auraient pu remplir les 36 000 conditions techniques et juridiques et budgétaires et fiscales et normatives variées qu'il faut pour entrer dans l'Union.
Et qui donne à l'Europe un visage un peu austère.
Et puis surtout des négociations qui sont souvent pénibles pour les pays en question, humiliantes. La Commission est souvent paternaliste et tatillonne et prend les gens d'un peu haut, quoi. Et alors qu'il faut avoir à l'esprit une relation d'égalité sur le terrain politique. C'est un peu ce que Jacques Chirac a raté aussi avec les nouveaux membres quand il les avait, comme ça vous spillez, à propos de l'Irak. Et on n'a toujours pas une relation absolument confiante, d'ailleurs, avec ces nouveaux membres.
Comment expliquer, Hubert Védrine, que François Mitterrand ait eu à ce point le sens du réalisme en matière de politique internationale, qu'on ne lui connaissait pas forcément au cours de sa carrière politique, telle qu'il l'avait déjà menée jusqu'à son accession au pouvoir.
Oh, si, ça n'a jamais été un homme chimérique. Il était tellement pénétré d'histoire et d'une culture dont on ne voit plus l'équivalent aujourd'hui, en tout cas dans la classe politique, que c'était une évidence. Il n'y a même pas à se poser la question d'être réaliste ou irréaliste. Il était tout sauf chimérique. Toute sa stratégie l'a montré. Il a su saisir les forces réelles et les rassembler. C'est comme ça qu'il a surmonté la question de l'éparpillement de la gauche et du handicap de la gauche non communiste par rapport au parti communiste. Et dans l'analyse des rapports de force mondiaux, il y a même des textes anciens. Par exemple, quand il va en Chine au début de la Ve République, mais il est simple député à l'époque, il préconise d'ailleurs l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, ce qui n'était pas vrai encore. De Gaulle le fera quelques années après. Je crois que le livre de Mitterrand remonte à 59, la reconnaissance par De Gaulle de la Chine est de 64. Après qu'il ait employé Edgar Faure pour ça, avec une mission préparatoire, la position de Mitterrand en 59 est typiquement réaliste dans la relation dans la vision des relations internationales. Il était très passionné par l'histoire de l'Italie, y compris passionné par Machiavel, auquel l'Église avait fait en son temps une mauvaise réputation, alors que c'était tout simplement un précurseur du nationalisme italien, et qui était un réaliste dans les rapports entre les principautés et les petites républiques italiennes de l'époque. Donc c'était un réaliste, il l'a montré après constamment. Inspiré, un réaliste oui. Volontariste. J'en profite pour préciser, parce que dans une partie de l'opinion qui était amolie par une sorte de moralisme un peu gélatineux, le réalisme, c'est une sorte de soumission à la réalité, c'est une sorte d'abdication. C'est exactement l'inverse. Le volontarisme et l'ambition ne peuvent pas exister si elles ne s'appuient pas sur quelque chose de ferme, qui est la compréhension de la réalité.
25 ans, la guerre des Malouines, c'était aussi le tout début des années Mitterrand. Est-ce que vous en gardez un souvenir ?
Ah oui, je garde le souvenir de la surprise que nous avons éprouvée à quelques-uns à constater la fermeté de la réaction de François Mitterrand contre le coup de force tenté par les militaires argentins. Non pas qu'il ait tranché sur le fond comme un juriste sur le fait de savoir à qui appartenaient exactement ces îlots. Bon, après tout, ce sont des colonisations concurrentes. Si on revenait loin avant dans l'histoire, mais entre les Malouines et les Malvinas. Mais ce n'était pas ça son point. Son point, c'était le refus absolu du changement territorial par le recours à la force. Alors que Claude Cheysson, le ministre de l'époque, un homme extrêmement attachant et convaincu et sympathique, lui avait une réaction tiers-mondiste encore de l'époque. Les Argentins ont raison, ils ont raison contre le colonialisme britannique. Et Mitterrand avait une réaction inverse. Alors on a dit, mais il est pro-anglais, pourquoi est-ce qu'il est pro-anglais ? Pourquoi il est pro-Thatcher ? Il n'était pas pro-Thatcher dans l'affaire. Il était viscéralement opposé en tant qu'homme qui avait connu jeune les années 30 et la passivité des démocraties face au comportement des dictateurs de l'époque et notamment dans les changements territoriaux et les annexions et les changements de frontières. Il réagissait au quart de tour. Il l'a fait à plusieurs reprises dans des dossiers que les gens ne relient pas entre eux, mais où il a la même réaction. Donc il s'oppose à l'époque des Malouines à l'annexion par les militaires argentins. Il s'oppose à l'annexion rampante du Tchad par la Libye du colonel Kadhafi. Et alors que Kadhafi contrôlait à peu près le Tchad quand Mitterrand était élu, parce que la politique de Giscard sur ce point particulier n'avait pas marché. Et il va monter l'opération Épervier, il va être plus malin que Kadhafi, et finalement Kadhafi sortira du Tchad. Et il aura la même réaction dans l'affaire de l'annexion du Koweït par l'Irak, mais là, il y a une réaction très partagée, évidemment, Bush, les Anglais, beaucoup d'Arabes eux-mêmes, etc. Et il aura la même réaction, et c'est un sujet qui reste très controversé, dans l'affaire du Rwanda, contre ce qui lui apparaîtra comme une volonté d'une minuscule minorité de l'extérieur, puisque c'était une minorité dans les Tutsis, le groupe de Kagame, et appuyé par l'armée ougandaise. Donc pour lui, c'était encore la même volonté de changer les frontières par la force. Et à chaque fois, il est implacable. Il y a un lien entre ces différents éléments. On peut discuter sur chaque point, on peut contester, on peut raconter ce qu'on veut, mais je suis là pour faire mieux comprendre ce qu'était sa pensée, c'était celle-là.
À vos yeux, justement, l'acte de Margaret Thatcher dans le cadre de la guerre des Malouines, c'est un acte qui correspond à votre conception de la politique étrangère ou de la façon dont un pays doit se faire respecter ?
Elle s'opposait à un coup de force. Je ne suis pas sûr qu'elle avait absolument raison dans l'affirmation urbi et orbi du caractère britannique de ces îlots. Et ça, c'est une discussion sans fin. Parce qu'après tout, avant que l'Europe connaisse l'extraordinaire expansion territoriale qu'elle a connue il y a trois ou quatre siècles, il y a toutes sortes de territoires qui n'étaient ni anglais ni rien. L'Argentine n'existait pas. Comment trancher ? Ça, c'est vraiment des beaux sujets. Pour
oui, la querelle de l'antériorité, c'est compliqué.
La Cour de justice internationale, oui. Et puis après tout, on est tous sortis d'Afrique il y a 150 000 ans. Bon. Donc si on revenait un peu en arrière, ça serait d'ailleurs assez amusant de croiser, d'établir un lien que personne ne fait entre ce qui se dit dans le monde de la connaissance de la pré-préhistoire, enfin des gens comme Coppens ou Lumley ou les autres, et puis ce que disent les préhistoriens qui reprennent le fil de l'histoire humaine quand ils commencent à y avoir des traces écrites. Enfin, il s'est passé plein de choses entre les deux. Bref, à l'époque moderne, la Grande-Bretagne n'a peut-être pas raison sur le fond, mais Thatcher avait raison de s'opposer à un coup de force militaire, une prise de possession militaire. Alors, évidemment, toutes sortes de belles âmes diraient « mais il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas y aller militairement, il faut déposer une plainte, il faut instaurer des procédures ». Mais ça, c'est vrai si on croit beaucoup, beaucoup au droit international. Thatcher, elle était comme Clémenceau. Hein. Clémenceau, dans les discussions du traité de Versailles, une des innombrables discussions, Clémenceau était horripilé par les discours de Wilson sur le droit international qui était le fondement de la sécurité des nations, qui allait se substituer en principe à partir de 1920, on a vu la suite d'ailleurs, aux conceptions classiques de la sécurité. Donc un jour où Clémenceau déjeune avec Wilson et Lloyd George, Wilson dit qu'il n'y a que le droit international qui est important pour protéger les faibles, les précautions militaires, c'est dépassé, tout ça. Et Clémenceau lui dit « Vous voyez votre poulet, là ?»« Et quoi, mon poulet? Qu'est-ce qu'il a, mon poulet? Ils sont en train de manger un poulet. Je suppose un très bon poulet, de Bresse. Qu'est-ce qu'il a, mon poulet ?» Et Clémenceau lui dit bah, « Le poulet croyait énormément au droit international pour sa propre protection. Ça n'a pas marché, vous êtes en train de le manger. » Bon, Thatcher était clairement de cette école-là. L'école Clémenceau, je veux dire. Mmh. Pas l'école Wilson. Alors, on peut débattre sans fin. S'il y avait un monde vraiment ordonné, où les gens respectent les principes contenus dans les chartes qu'ils signent, peut-être qu'on pourrait procéder autrement.
Donc, un monde réaliste opposé à un monde illusoire.
Le monde, il est comme il est. Il est réel. Il n'est pas réaliste. Le réalisme, c'est dans le regard, dans l'analyse. On peut chercher à faire changer les choses, mais bien sûr, et Mitterrand l'a fait énormément, par exemple sur le plan européen, mais à un moment donné, il faut savoir comment sont les choses réellement au jour où vous intervenez. C'est comme un chirurgien, il doit bien connaître l'anatomie quand même pour agir.
On pense que de telles initiatives telles que celle qu'a prise Margaret Thatcher pour la guerre des Malouines ou celle de Valéry Giscard d'Estaing peut-être pour Colvézi, ça correspondait à un moment de l'histoire où les États souverains avaient un réel poids, alors qu'aujourd'hui on aurait peut-être plutôt tendance à mutualiser tout cela, à s'en aller uniquement sous la bannière de l'ONU. Est-ce que cela aussi a une bannière commune, en tout cas?
D'abord, l'invention de l'ONU est très antérieure à tout ça. L'ONU, c'est 1945.
Oui.
Bon, évidemment, c'est imposé par les puissances victorieuses. Le texte est rédigé par les puissances victorieuses, par des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des États-Unis et de quelques pays alliés. Même s'ils écrivent de façon grandiloquente « nous, les peuples des Nations Unies », en fait, c'est nous, les directeurs juridiques des ministères, des puissances alliées. Bon, donc les idées de l'ONU et de la charte qui sont extrêmement belles et qui doivent nous guider comme un objectif existent déjà longtemps avant. Et quand Giscard prend la décision d'intervenir à Colvézi, moi, c'était pas critiquable. À mon avis, c'était pas critiquable. Il a enrayé les massacres qui avaient commencé. Ils auraient été beaucoup plus grands sans son intervention, mais c'est une intervention unilatérale. Pas tellement contestée ni condamnée par les alliés occidentaux, mais unilatérale. Quand Thatcher bloque les militaires argentins aux Malouines, c'est une intervention unilatérale, c'est certain. Quand l'URSS intervenait, d'ailleurs sottement, ça a précipité sa fin en Afghanistan, c'était unilatéral. Quand les Vietnamiens ont mis fin au régime abominable de Pol Pot au Cambodge, c'était une intervention unilatérale. Les Occidentaux ont tordu le nez d'ailleurs, parce qu'ils étaient partagés entre le début de prise de conscience de l'abomination du génocide cambodgien et puis le fait que c'était mal d'intervenir tout seul et ils n'étaient pas contents que ce soit les Vietnamiens communistes. Enfin, c'est quand même eux qui ont mis fin au régime de Pol Pot.
Ça reste unilatéral, même s'il y avait le soutien de l'URSS
Oui, ce n'était pas multilatéral au sens juridique, voilà. Au sens où on dirait la seule ingérence légitime, c'est celle qui peut être décidée par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7. Ça, c'est arrivé peu souvent, parce qu'il y a toujours un membre permanent qui n'est pas d'accord avec l'autre. Mais c'est quand même arrivé à propos de l'annexion du Koweït par l'Irak. Saddam Hussein était bête. Il n'a pas compris que l'URSS avait changé, que Gorbatchev n'avait qu'une idée, c'est d'avoir de bons rapports avec les Occidentaux et qu'il ne mettrait pas son veto. Donc ça a pu déclencher l'action légale et légitime internationale. Dans l'affaire du Kosovo à laquelle j'ai participé, j'assume ma part de décision, c'est entre les deux. Parce qu'il y a eu plusieurs résolutions au chapitre 7, mais aucune qui disait clairement le Conseil ordonne le recours à la force. on n'était pas loin, mais enfin, on n'avait pas franchi ce pas. Alors, est-ce que c'est tout ça s'est dépassé parce que nous sommes dans la communauté internationale et que les États sont périmés, etc. En pratique, non. D'abord, en vrai, ça n'est pas dépassé, sinon George Bush n'aurait pas décidé tout seul d'aller faire la guerre en Irak. Donc les États-Unis, ils sont au-dessus, quoi. Ils considèrent que le système multilatéral, c'est bien si ça vient compléter leurs orientations, mais pas si ça prétend les empêcher. Donc il y a des puissances qui se considèrent comme au-dessus de cette espèce de consensus multilatéral. C'est pas dépassé. Quant au rôle des États, c'est encore un autre sujet. Moi, je m'inscris en faux contre cette tendance, cette croyance très forte depuis 20 ou 30 ans sur le caractère inéluctable et souhaitable du dépassement du rôle des États. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. D'abord, c'est pas ce qui se passe. Et certains analystes intelligents comme Sammy Cohen à la Fondation des sciences politiques ont fait des études sur la résistance des États, même si dans certains cas ils le regrettent, enfin, c'est un fait. Dans ce courant sur le déclin des États, c'est un mélange curieux qui soutient ça, parce qu'il y a d'abord tous les anciens gauchistes, tous les courants du gauchisme, le trotskisme, le maoïsme, etc., qui ont été très forts, notamment en France, et très forts dans les gens de ma génération. Il y a une sorte de fidélité au communisme d'origine, le dépérissement de l'État, dans le marxisme. Il y a d'autres, et puis alors, il y a un autre courant qui est complètement différent, qui est l'idéalisme un peu catho de gauche, on va dire, sur justement la communauté internationale, l'aide au tiers-monde, et puis ça se retrouve dans les courants, la croyance dans la société civile. Non pas qu'il n'y ait pas d'état de vertu, mais la croyance fait que la société civile va remplacer les États. C'est la ligne de partage. Et puis évidemment, tout le courant libéral, libéral au sens économique et au sens idéologie d'une économie dans laquelle l'État n'intervient pas.
Ça fait beaucoup de monde qui est contre l'État.
Ça fait du monde. Ça fait du monde et ça fait même une majorité, je crois. Une majorité hétéroclite qui se retrouvait dans les médias qui, depuis maintenant des années et des années, considèrent que les gouvernements, c'est quand même a priori suspect, que la société civile, c'est a priori bien, qu'une ONG qui dit quelque chose, c'est a priori vrai, alors qu'un gouvernement va vérifier 10 fois pour voir si on ne peut pas les mettre devant leurs contradictions, etc. Mais tout ça débouche rien, en fait.
Normalement, sur un monde meilleur.
Oui, d'accord. D'ailleurs, dans mon petit livre « Continuer l'histoire », après avoir expliqué pourquoi toutes ces croyances ne marchent pas, n'ont pas abouti à des progrès, pourquoi les Occidentaux sont inspirés par ce que j'appelle aujourd'hui une irréelle politique, il y a la branche américaine, la branche européenne, après j'en viens à me dire, mais si on veut vraiment un monde meilleur, alors si ce à quoi on a cru depuis 1945 ne marche pas, ou depuis 1989, sur quoi on s'appuie? Et quand je réfléchis à ça, je me dis, on ne peut pas ne pas s'appuyer sur les États. Le global, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a une menace globale du genre réchauffement du climat ou pollution chimique que la réponse est globale, c'est-à-dire abstraite au-dessus de nous, une sorte de pseudo-gouvernement mondial dans une sorte d'Olympe qui fait que nous, on n'a rien à faire, on est tranquille, on s'est défaussé sur eux. Donc je crois au contraire que nous vivons la persistance des États. Même Fukuyama, le néoconservateur américain, il a fait tout un chemin et son avant-dernier bouquin, c'est de dire on ne peut pas se passer des États en fait. Il faut que ce soit des États modernes, des États démocratiques, il faut travailler là-dessus. Mais on ne peut pas... l'idée qu'on va se substituer, remplacer les États-nations qui sont archaïques et dangereux et périmés, on va leur substituer quelque chose au-dessus, une sorte d'Europe imaginaire, parce que les pro-européens ont beaucoup cru ça aussi. Voilà, donc sur ce point, j'arrive, sans vouloir provoquer personne, hein, je n'ai pas l'esprit de la provocation, j'arrive à des conclusions sur le rôle nécessaire des États qui ne sont pas du tout dans l'ambiance dominante des dernières années.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a passionné les Français et de clore la présidence de Jacques Chirac après 12 années à l'Élysée. Henri Amouroux, fin observateur de l'actualité en tant que journaliste, chroniqueur au Figaro et historien, se livre à l'exercice de narrer les 3 fins de règne, ce sont ses propres termes, du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac, où l'on comprend mieux les différences de personnalité de ces 3 hommes, mais aussi l'évolution de la société française dans ses rapports à l'institution présidentielle. L'interview s'est faite en 4 temps, d'abord une présentation générale du livre d'Henri Amouroux, 3 fins de règne, puis une émission consacrée à chacun des 3 présidents qui ont passé plus de 10 années à l'Élysée. Criblées d'anecdotes et de commentaires, les interviews d'Henri Amouroux ne manqueront pas de vous surprendre. Ces émissions sont en libre téléchargement sur Canal Académie.
Éclairage avec Hubert Védrine pour son dernier essai « Continuer l'histoire » aux éditions Fayard sur les relations internationales. Votre conception du rôle de l'État, c'est précisément le point où nous en étions. Le dépassement de l'État, quand même, Hubert Védrine, ça a été souhaité parce que l'État a été associé au nationalisme guerrier lié à la Seconde Guerre mondiale et que tout un mouvement d'après la Seconde Guerre mondiale a consisté à dépasser ces nationalismes fauteurs de guerre en instituant des règles collectives. Donc vous ne voulez pas renier cet aspect-là?
Naturellement pas, mais je me demande si on ne mélange pas tout. Par exemple, en 1913, il y a une sorte d'enthousiasme en France pour faire la guerre avec l'Allemagne réciproquement. Bon, est-ce que c'est lié à l'État? Pas forcément. Je veux dire, la Troisième République n'était pas un État si fort que ça. C'est même pas aussi fort que l'État français de la Ve République. Donc le nationalisme est d'une autre nature et la dérive qui fait passer du patriotisme normal au nationalisme disons, modéré et puis au nationalisme extrémiste, voire belliqueux et agressif, il y a toute une sorte d'évolution, toute une gamme dans laquelle l'État peut être aussi bien un rempart qu'un facteur d'aggravation. On ne peut pas mélanger tous les éléments par rapport à ça. Et puis passer à l'idée que si on remplace, on dépasse les États par donc la société civile et puis la communauté internationale et puis les médias et puis la justice internationale. On est dans quoi? On est dans un système complètement incompréhensible dans lequel les acquis de la démocratie sont balayés parce que les gens normaux, pas les intellectuels ou les visionnaires, mais les gens normaux, le citoyen normal d'une démocratie européenne, il veut quand même conserver sa part de souveraineté. Les gens normaux, ils ne comprennent pas pourquoi l'idée de souverainisme est devenue négative. Pour un peuple, être souverain sur son propre destin, c'est un objectif important. Et vous avez un...
C'est associé à la liberté.
C'est associé à la liberté, c'est associé au fait qu'on n'est pas dépendant des autres, qu'on n'est pas les jouets complets du destin. Et puis on a un vote en tant que citoyen, on vote pour participer au choix d'un pouvoir à un endroit donné. Alors si tout ça, l'État c'est mal, la démocratie c'est dépassé, et on crée un déficit démocratique, on crée une souffrance démocratique, on crée une dépossession. Et l'idée que le marché mondial va tout régler, ce n'est pas vrai. Même les adeptes les plus convaincus du marché, moi je suis convaincu qu'il faut accepter sans aucune arrière-pensée le fait que nous sommes dans une économie globale de marché. Je pense que la gauche française doit l'accepter, parenthèse. Hein. Mais le marché ne peut pas répondre à tout. On voit bien qu'il est incapable de faire des arbitrages à long terme et qu'il y a des éléments d'intérêt général qui ne prend pas en compte. Bon. Donc pour tout ça, il ne faut pas faire l'impasse sur l'État. Mais quand je dis État, je ne renvoie pas au nationalisme d'avant, naturellement.
Comment voyez-vous la construction européenne dans ce cas? Vous la voyez comme un super État souhaitable, puisqu'il conservera justement les prérogatives de l'État dont vous parliez à l'instant, synonyme de liberté, ou vous voyez cette évolution comme quelque chose de plutôt nuisible qui a dépossédé les États s'y étant soumises?
Ce qui a été fait jusqu'à maintenant est bien dans l'ensemble. C'est bien à condition de ne pas le raconter d'une façon sotte. Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est les Américains et les Soviétiques qui ont fait la paix en Europe. Et grâce à ça, on a pu mettre en marche après le mécanisme de la construction européenne. Ce sont d'ailleurs les Américains qui ont beaucoup poussé au début. Il faut avoir l'honnêteté de leur rendre justice sur ce point. Ils ne l'ont pas fait que par générosité, ils l'ont fait par intérêt stratégique pour que l'Europe occidentale ne tombe pas sous la coupe des partis communistes et puis de l'Union soviétique. Mais enfin, ils l'ont fait. Et les Européens ont pris le relais après. Donc tout ce qui a été fait est bien, plutôt intelligent, un peu trop bureaucratisé par la Commission, enfin dans l'ensemble plutôt bien, et puis le fait de pouvoir circuler librement, et puis l'euro c'est une bonne chose. Le débat porte sur la suite. Alors pour moi c'est simple, enfin c'est simple maintenant, parce que j'ai évolué, j'ai réfléchi, j'ai participé beaucoup à la construction européenne, j'ai participé à une centaine de rencontres Kohl-Mitterrand, pour ne prendre qu'un exemple. Et quand je dis une centaine, c'est un chiffre vrai. C'est pas une image. Bon, eh bien, je suis arrivé à la conviction que la construction européenne continuera avec force si on arrête de la confondre avec l'intégration européenne. Je ne crois plus qu'on puisse aller tellement plus loin dans l'intégration européenne. Je ne crois pas que ce soit possible, je ne crois pas que les peuples souhaitent. Alors, les peuples s'expriment de différentes façons, mais c'est soit l'abstention massive aux élections européennes de 2004, soit le non en France ou le non aux Pays-Bas. Et il y aurait eu un non en Grande-Bretagne, on le sait. Donc l'intégration, c'est donner le sentiment que les peuples vont devoir fusionner. Il y a même eu des gens pour signer des articles pour dire qu'il fallait fusionner la France et l'Allemagne, par exemple, comme si c'était deux firmes automobiles. Donc il y a une sorte d'irréalisme incroyable, et finalement néfaste, hein, dans une partie des élites les mieux intentionnées, alors que cette idée d'intégration ne marche pas. Il y a d'ailleurs en Europe, il n'y a pas de signe d'intérêt plus élevé pour les voisins, si vous prenez n'importe quel pays d'Europe, qu'il y a 10 ou 20 ans. Il y a une ouverture plus grande, globale, mondiale, un intérêt qui peut inclure aussi bien le désir d'aller aux États-Unis ou en Chine. Mais il n'y a pas un intérêt extraordinaire et particulier pour les voisins européens. Donc il n'y a pas de désir d'intégration. Au contraire, les peuples européens veulent garder leur identité, être ouverts, mais tout en restant quelque chose. Ils ne veulent pas être n'importe quoi dans le magma mondial. Garder une identité, garder une patrie, un pays, il faut par ailleurs que l'Europe ait des limites. Sinon, c'est trop anxiogène. Mais le champ de la construction est extrêmement ouvert. Et pour moi, c'est la suite. La suite, c'est se mettre d'accord rapidement sur les institutions européennes qu'il faut un petit peu améliorer. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable ce que font Merkel et Sarkozy, c'est-à-dire de tenter un traité plus simple et abandonner les chimères de la Constitution, qui était un mensonge, ce n'était pas une Constitution, il n'y a pas un peuple unifié. Mais beaucoup de gens pensaient que parler de Constitution était un mensonge utile. En fait, ça a été un
acte politique
néfaste. Oui, avec l'idée de créer par le haut, par nominalisme, un peuple européen en prétendant que c'était une Constitution. Ça s'est révélé une impasse. Bon, donc je ne crois pas que l'intégration ira tellement plus loin que le traité simplifié qui va être tenté, qui est d'ailleurs la seule voie qui peut marcher pour débloquer la question institutionnelle. Mais après, il y a le champ des projets. Nouvelle politique commune à 27, énergie, écologie, recherche, etc. Nouvelle politique économique dans la zone euro. Là, il y a un travail énorme à faire pour harmoniser. Initiative concrète à 3 ou 4 sur la défense, sur d'autres choses comme ITER, comme la tentative de GPS européen Galileo qu'il faut relancer. Bon, c'est illimité le champ des projets. Et là, les opinions publiques ne sont absolument pas bloquées. Elles sont très européennes sur ce plan. Mais si on leur dit, est-ce que vous êtes européen à la place d'être français ou suédois ou portugais ou italien ou je ne sais quoi, ça ne marchera pas.
Donc vous écartez l'idée de citoyenneté européenne ?
Non, la citoyenneté, si on peut juridiquement définir le fait qu'on a des droits, des équivalences, tout ça est extrêmement simplifié, mais c'est même réponse, ça ne peut pas être une citoyenneté européenne qui se substitue au fait d'être citoyen français ou allemand ou néerlandais, sinon ça ne marchera pas. Si on sort de ce chimérisme trop intégrateur et qui est resté fédéraliste même sans le nom, si on arrive à se libérer de ça, si on sait qu'il n'y aura pas les États-Unis d'Europe parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'étaient les États-Unis d'Amérique au moment de leur création, mais quelque chose d'original qu'est la Confédération des États-nations européens, on peut avoir quelque chose d'extrêmement puissant et qui retrouve la faveur des opinions.
Est-ce que le fait d'être favorable à l'euro n'est pas en soi l'idée que l'on admet l'intégration poussée à son terme ?
Certains l'ont vécu comme ça. Je l'ai cru moi-même à un moment donné, donc je ne cache pas le fait que ma pensée évolue au fil des expériences et de la vie. J'avais même écrit il y a très longtemps dans Le Point que l'euro créerait un choc fédérateur. Bon, mais je ne pensais pas fédération au sens fusion de la France et de l'Allemagne, mais je pensais au moins fédérateur des économies. Or, même là, ce n'est pas complètement vrai, puisque dans la zone euro, on n'arrive toujours pas à avoir des politiques économiques identiques. Donc, il y a un long chemin à faire. Et je ne crois pas que ça veut dire intégration au-delà. Donc, s'il fallait raisonner de la même façon où la politique monétaire est confiée à M. Trichet, non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on va confier la politique d'immigration à M. Tartampion et la politique étrangère à M. X et la politique fiscale à un autre et la politique sociale à encore un autre. Ça ne se fera pas. Ça ne marchera pas. Les peuples ne veulent pas. Même Delors, qui est vraiment l'Européen de référence, mais je ne veux pas le tirer sur des positions qui ne sont pas les siennes, mais il a quand même mis en garde souvent. D'abord, il dit que c'est une fédération d'États-nations. Les États-nations sont toujours là et seront toujours là.
C'est le terme que vous reprenez d'ailleurs.
Que je reprends parce que je m'y reconnais. Je pense que ces fédérations d'États-nations sur le plan zone euro, confédération d'États-nations pour le reste, mais en tout cas, c'est intéressant de marier les deux concepts. Delors lui-même a souvent mis en garde en disant à ses amis socialistes français, on peut pas faire la politique sociale ne peut pas être gérée par l'Europe. C'est pas possible, ça suppose une négociation, c'est intime à l'intérieur de chaque pays, c'est dans la langue du pays, avec des traditions, tout ça, on ne peut pas abolir tout ça. Ce n'est pas un commissaire européen qui va gérer tout ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc si on a une bonne répartition des choses, une bonne subsidiarité de ce qui relève de l'Europe, ce qui n'en relève pas, si c'est stabilisé, alors que depuis des années on donne l'impression que ça change tout le temps, dès qu'on fait un traité, on dit qu'il est nul, il faut en faire un autre. Bon, donc ça crée le tournis, et puis les citoyens normaux se découragent de tout ça. Si on clarifie tout ça, la répartition des pouvoirs, les limites de l'Europe géographique, si on clarifie la construction européenne, a de beaux jours devant elle. Hein.
Alors, vous exprimez, Hubert Védrine, ici même, le sommet européen n'a pas encore eu lieu à Bruxelles. Il aura lieu dans quelques jours. Je cite Romano Prodi qui s'exprime, lui, dans les pages de La Croix. « Je resterai ferme sur certains points forts, la création, puisque c'est José Barroso aujourd'hui, la création d'un poste de ministre européen des Affaires étrangères, quel que soit le nom qu'on lui donne. » Donc ça, c'est une idée sur laquelle il tient, à laquelle il tient particulièrement. Ça vous semble, j'imagine, aller peut-être dans la ligne quand même qui est la vôtre ?
Alors, les Anglais n'en veulent pas. Les Anglais, je pense, peuvent accepter ce qu'il y aura sans doute d'utile dans le traité que je ne connais pas, parce qu'il n'est pas encore négocié, et qui sera gardé de l'ancienne constitution, qui est le fait de fusionner le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, M. Solana, M. Pesk, avec la commissaire actuelle, Mme Benita Ferrero-Waldner, qui est compétente pour les relations extérieures de la Commission. C'est vrai que la fusion des deux postes, en donnant à cette personne un rôle de vice-président de la Commission, c'est intelligent, c'est logique, économie de moyens, bonne combinaison. Est-ce que c'est un ministre européen des Affaires étrangères ? Les Anglais ont posé comme condition qu'on enlève du traité tout ce qui sont des symboles pseudo-constitutionnels et qui font comme si l'Europe devenait un État unifié, ce qui n'est pas vrai. Alors certains le veulent parce que même si ce n'est pas vrai, ils pensent que ça crée un mouvement utile, d'autres ne le veulent pas parce que ça oblige à faire des référendums qui sont perdus, puis d'autres ne veulent pas parce que c'est un abandon de souveraineté qu'ils n'acceptent pas. Donc les Anglais, ils incarnent ceux qui disent il faut enlever la charte, il faut enlever, ce n'est pas un ministre. Il n'y a que dans les vrais pays qu'il y a des ministres des étrangères et l'Europe n'est pas un État et de toute façon, il n'y aura pas une politique étrangère unique. Personne ne fait le parallèle avec la monnaie. Il y a des politiques étrangères nationales qui continueront, de plus en plus compatibles, de plus en plus convergentes, peut-être un jour quasiment identiques, mais on est loin d'en être là. On l'a vu dans l'affaire de l'Irak, par exemple, sur n'importe quel sujet d'ailleurs en actualité. Par contre, quelqu'un qui gère la partie commune des politiques étrangères, les principes généraux communs, la démocratie, la paix, le développement, etc., la sécurité, et d'autre part, toutes les opérations sur lesquelles les Européens se mettent d'accord pour agir ensemble ou de la même façon, et à ce moment-là, ça devient une politique étrangère commune. Mais c'est illusoire de penser que ça puisse absorber toutes les politiques étrangères des 27 pays.
Donc, dans la mesure, étages. Dans la mesure où les États-nations ont accepté de travailler avec l'Europe.
Travailler ensemble. Dans cette affaire-là, nous agissons ensemble et nous demandons à Solana de s'occuper de telle affaire en Afrique ou dans les Balkans ou ailleurs. Donc il y a place pour les deux. Formellement, les Anglais ont raison, ce n'est pas un ministre. En fait, il y a confusion. Bon, Prodi tient beaucoup parce que c'est un Italien très européen convaincu, de tradition fédéraliste, et il cherche à garder le plus possible. Mais s'il a le choix, le moment venu, dans quelques semaines, dans la conférence intergouvernementale, et devant des positions britanniques de Gordon Brown, moins ouvertes que celles de Tony Blair. S'il a le choix entre dire ben, la personne en question, c'est le haut commissaire européen pour les relations extérieures, ou bien tout faire capoter, il acceptera qu'il n'y ait pas le mot. Bien sûr. Ce qui va être tenté, là, c'est une synthèse entre les pays qui ont voté oui, et qui voudraient garder beaucoup du texte qu'ils ont voté, les pays qui ont voté non, qui ne peuvent reprendre que des choses qui ne seront pas immédiatement rejetées, et les Britanniques. Et M. Brown va dire, moi, le moins possible, sinon l'opposition conservatrice va m'imposer un référendum que je vais perdre. Et donc, vous n'aurez pas votre traité, même simplifié. Donc, vous avez intérêt à ne pas charger ma barque. Et puis, les Polonais, mais on va voir aujourd'hui, puisque le président Sarkozy est en Pologne, les Polonais ont conquis dans la négociation de Nice, comme les Espagnols, un nombre de votes important. Ils ont presque autant que les grands pays. Or, dans le système auquel nous passerions, il y a un calcul démographique qui redistribue les cartes, où l'Allemagne a beaucoup plus. Elle double son poids. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie l'augmentent un petit peu. Et la Pologne et l'Espagne reperdent un peu par rapport à Nice, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors l'Espagne l'accepte, les Polonais ne l'acceptent pas. C'est un des obstacles possibles, même sur la route du traité simplifié, et qui est moins illusoire qu'une grande renégociation.
Alors justement, c'est l'un des points évoqués par Romano Prodi.
C'est un peu long, mais c'est compliqué.
Mais la diminution substantielle de l'unanimité et du droit de veto au Conseil des ministres, ça c'est un sujet crucial, précisément, puisque c'est la façon dont les pays vont s'organiser entre eux pour prendre les décisions.
Alors, les Polonais ne veulent pas du vote à la majorité qualifiée, les Britanniques non, quasiment pas ou presque rien. Et le président Sarkozy, dans ce que je connais de lui, ce que j'ai lu de lui, lui souhaiterait qu'on élargisse au moins pour la gestion des questions d'immigration et de sécurité. Donc en gros, le travail des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Justice par rapport à ça. Les Anglais sont assez durs là-dessus, parce qu'une des raisons pour lesquelles ils ne se troublent pas trop de voir le poids de l'Allemagne multiplié par deux, éventuellement, dans le nouveau traité, c'est qu'ils, de toute façon, comme sur tous les points essentiels, on ne vote pas la majorité, mais il y a l'unanimité, donc on peut bloquer. Donc ils sont assez relax, si je puis dire, sur le changement des points respectifs. Mais je ne critique pas la tentative qui va être faite. Je pense que c'est la seule qui puisse débloquer l'Europe sur le plan institutionnel, l'approche Merkel-Sarkozy. C'est la seule. Parce que la renégociation d'un traité ambitieux, ça va se casser la figure. Tout nouveau référendum, ça sera le même résultat. Le fait de faire revoter les pays qui ont voté non pour qu'ils votent oui, ça ne peut évidemment pas marcher. Ou alors on en reste à Nice et on fait des petits amendements, mais qui ne sont pas suffisants.
Hubert Védrine, on marque une seconde pause. Éclairage avec Hubert Védrine pour son dernier essai « Continue l'histoire » aux éditions Fayard. Nous avons beaucoup parlé des questions européennes, en particulier dans la prévision du sommet européen qui aura lieu la semaine prochaine pour débloquer le nœud institutionnel, débloquer la situation. J'aimerais revenir, si vous le voulez bien, Hubert Védrine, à peut-être un aspect moins pratique, moins concret. Quelles sont vos sources d'inspiration intellectuelle en matière de relations internationales? Où puisez-vous vos références, parce que vous semblez cadrer plutôt avec une vision très justement réaliste, précisément, assez bainvillienne de la politique.
Oui, mais un vrai réaliste, c'est pas quelqu'un qui en est resté au traité de Westphalie. Un vrai réaliste, c'est quelqu'un qui essaie de travailler sur le réel, tout le réel. Et dans la réalité du monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que le rôle des États diminue. C'est pas mon avis, mais certains le croient, donc je dois englober dans mon analyse le fait que d'autres le croient. Certains pensent que c'est souhaitable. Moi, je pense pas que ce soit souhaitable. Je pense que les États doivent être modernes, ouverts, démocratiques, transparents, tout ce qu'on veut, et respecter les droits des populations et des minorités, mais quand même rester des États, des acteurs du système multilatéral, parce que sinon, si vous faites les réunions de tout le monde dans le cadre de l'ONU, si vous rassemblez 192 gouvernements impuissants, vous n'avez rien à la sortie. Ce n'est même pas la peine de prendre des engagements ronflants comme dans la déclaration du millénaire. Donc je pense tout ça. Mais je dois savoir aussi en tant que réaliste que d'autres ont une autre vision. Bon, donc le réaliste doit être vraiment ce qu'il est, et non pas une sorte d'idéologie ossifiée des relations internationales du XVIIe siècle ou du XVIIIe, d'une époque où les États étaient les seuls acteurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même s'ils demeurent des acteurs importants. Alors mes inspirations, je ne peux pas vous dire parce que c'est trop vaste et trop éclectique. Beaucoup de lectures, j'ai lu tous les classiques sur ce plan, ça va de Thucydide à Kissinger, bien sûr, mais... ou alors Fukuyama, que je citais, pour prendre des néoconservateurs et élargir un peu, mais j'ai lu les mémoires de peu près tous les grands hommes qui ont joué des rôles dans les relations internationales. Mais il y a l'expérience aussi. Et quand j'ai été aux côtés de François Mitterrand en 81, quand j'ai assisté à mon premier conseil européen, quand j'ai assisté au premier sommet franco-allemand, quand j'ai accompagné François Mitterrand à Ottawa pour un G7, c'était 7 à l'époque et pas 8, où j'ai vu les discussions entre Reagan et lui. Donc il y a 1000 choses que j'ai compris en regardant ça, que je n'aurais pas compris en lisant 20 livres, sur les rapports de force, sur les rapports psychologiques, qui corrigent parfois les rapports de force, sur la manipulation. Par exemple, à Ottawa, au G7, les Américains avaient un peu enfreint les règles selon lesquelles c'est le pays président qui rend compte des travaux, et ils avaient organisé un centre de presse américain qui était extrêmement loin. Et en plus, avec les contrôles de sécurité, les gens ne pouvaient pas se déplacer facilement. Donc, en pratique, les journalistes n'allaient écouter que les Américains et pas les autres. Donc, tout ce qu'on avait voulu dire dans ce sommet était perdu. Et les Canadiens n'étaient pas contents. Il y a des choses que vous apprenez comme ça, vous ne les désapprenez jamais après. Vous savez comment ça fonctionne, comment fonctionne un président et un ministre, comment fonctionne un chancelier, un premier ministre britannique, les rapports avec la délégation. Enfin, il y a des choses qui s'apprennent dans la réalité. Et dans ma démarche, il y a un aller-retour permanent, puisque les hasards de la vie me l'ont permis. Et j'ai trouvé ça très, très amusant, très passionnant. Il y a un aller-retour permanent entre les lectures, les théories, et puis les faits, la pratique et celle de notre époque.
Beaucoup d'hommes politiques fréquentent la réalité, beaucoup de ministres des Affaires étrangères aussi. Ça n'est pas pour autant le cas que l'on peut dire qu'ils ont une vision réaliste. Parfois, ils ont une vision très idéologique, et vous-même, si vous vous situez un peu à contre-courant quand même, il doit y avoir des raisons pour cela.
Oui, il y a des gens qui ont des visions idéologiques, et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soient sans qualité, mais ils ont de l'instinct, ils sont réactifs, sont malins, débrouillards, mais ils traitent les sujets l'un après l'autre. Un sujet arrive, on essaie de le débrouiller au mieux, puis on l'oublie, on passe au suivant. Bon. Et moi, j'ai un goût intellectuel, je ne prétends pas que ce soit mieux, mais simplement, c'est comme ça que j'aime vivre. J'en fais pas une théorie. Hein. Mais j'aime bien comprendre ce que je fais, voir dans quoi ça s'inscrit, et je crois à l'histoire, et je crois qu'il y a des éléments qui circulent dans l'histoire humaine, qu'il y a des choses souterraines très fortes qui continuent à exister à travers les groupes humains. Donc j'essaie de comprendre ça. J'essaie de comprendre ce fil. Et en même temps, ça change tout le temps. Les Français d'aujourd'hui sont apparemment complètement différents de leurs parents et de leurs grands-parents en termes de mode de vie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est idiot de croire qu'on n'est pas capable de s'adapter à la mondialisation. On s'est déjà adapté et transformé 36 fois. Et en même temps, on est mystérieusement les mêmes sur certains points. C'est extrêmement intéressant de comprendre comment les choses se mêlent et se démêlent. Et en politique étrangère, il y a à la fois une sorte de terrorisme de l'immédiat, de la nouvelle, du pseudo-scoop, de quelque chose qui est tragique. Et puis comme on a une information sur tout ce qui se passe partout, qui a 6 milliards et demi d'habitants, il y a forcément à chaque minute quelque part une tragédie ou une abomination. Donc c'est très prenant, c'est très pressant et on peut se contenter de réagir à ça. Dire qu'on est consterné, préoccupé, indigné, content, déçu, bon. Et puis en même temps, il y a des choses extraordinaires qui remontent à des siècles et des siècles et des siècles. C'est extraordinaire ce mélange. Donc c'est parce que j'ai essayé de le démêler que j'ai essayé d'organiser mes réflexions en pensant que ça guiderait peut-être mieux mes actions.
Vous dites que mener une politique étrangère sérieuse, fondée sur une vraie vision du monde, est de plus en plus difficile. C'est bien que le monde a aussi changé, rend les choses de plus en plus délicates, peut-être que la multiplication des facteurs, que les choses se sont accélérées. Est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères a autant de prise aujourd'hui qu'il ne l'avait dans les périodes antérieures sur les événements?
Par définition, c'est plus compliqué, puisque au congrès de Vienne, il devait y avoir une dizaine de pays qui comptaient, et maximum. Et dans chaque pays, c'était le souverain et deux, trois personnes qui comptaient, point. Donc c'est peut-être pas démocratique au sens des normes d'aujourd'hui, mais c'est plus rapide et c'est plus facile. C'est plus efficace. Quand vous êtes dans un système mondial où il y a 192 pays avec une grande majorité maintenant de démocratie, ou une démocratie complète, imparfaite, mais quand même qui existe, avec des partis politiques, avec une opinion publique, donc des sondages, avec un parlement qui a son point de vue, et chacun a des relations, on parle de diplomatie parlementaire, le terme est impropre, mais on parle de ça, et puis les villes, bon, c'est infiniment plus compliqué. Il faut jongler avec 30 boules. Hein. Donc il faut, dans tout ça, il faut se dire quel est l'intérêt profond de mon pays, quel est le mandat que j'ai reçu, à l'intérieur du mandat, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, et il faut en plus l'expliquer tout le temps. C'est pas comme à l'époque de Richelieu, hein, où il peut y avoir une politique qui se développe pendant des années et des années sans qu'il ait besoin d'en parler, qui que ce soit d'autre que le roi de temps en temps. Bon. Et puis de quelques personnes qui sont les commis de l'époque, l'équivalent de nos grands ambassadeurs. Là, il faut expliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à certains moments, l'opinion publique a un bon instinct, puis à d'autres moments, elle se trompe. On pourrait prendre les grands événements historiques depuis qu'il y a une opinion et des sondages, et on verrait qu'il y a beaucoup de cas où l'opinion était quand même absolument convaincue de faire une chose qui, avec le recul, s'avère complètement fausse. Alors l'opinion est contradictoire, elle est à la fois pour Pétain et De Gaulle en même temps, donc il faut bien démêler quand même. On est dans des époques moins difficiles, heureusement. Donc il faut trier. Moi, je pense qu'il n'y a pas de dirigeant valable, il n'y a pas d'homme d'État aujourd'hui, je ne pense pas uniquement à l'international, hein, s'il n'y a pas une part de capacité de résistance à ça. Je ne dis pas qu'il faut négliger l'opinion, je suis profondément démocrate, sinon je n'aurais pas passé ma vie à expliquer le pourquoi et le comment de ce que j'essayais de faire. Mais en même temps, je crois que se soumettre à ça, c'est impossible. C'est impossible. Et on a, en matière politique, l'équivalent de ce qu'on a dans l'économie de marché mondial avec l'obsession des résultats trimestriels qui rendent beaucoup d'entreprises complètement, qui affolent leur boussole. Et puis les actionnaires veulent une rentabilité immédiate, changent de dirigeant tous les 2 ans, on ne sait pas où on va. Vous avez l'équivalent en politique, le sondage permanent. Il faut l'intégrer, il faut l'accepter, il faut vivre avec, et en même temps, il ne faut pas s'y soumettre complètement, il faut avoir sa propre boussole, et vous ne savez pas où vous allez si vous n'avez pas une vision claire de là d'où vous venez. En fait, c'est ma conception. Hein.
Agir au mieux de nos valeurs et de nos intérêts. France, puissance moyenne d'influence mondiale, c'est aussi une expression qui vous appartient. Que pensez-vous d'une...
Moi, je ne prends pas le terme moyen. Hein. Puissance
d'influence mondiale.
D'influence mondiale ou puissance encore globale, que je ne mets pas sur le même plan que...
Et puissance moyenne, non, pas moyenne.
Non, parce que si vous prenez les 192 pays des Nations Unies, on n'est pas le numéro 95 ou 12. Et si vous prenez même les puissances, on va en trouver 30 ou 40, on n'est pas à la moyenne, on est plus que ça. Mais on n'est pas non plus la puissance dominante. C'est important d'ailleurs de... Ça serait important de trouver le mot juste.
Le terme exact pour ne pas se situer...
Le terme exact pour qu'il y ait consensus dans ce pays et qu'il soit une définition de ce que nous sommes aujourd'hui qui soit ni prétentieuse, ni grandiloquente, ni fondée sur des affirmations qui font rigoler ailleurs, du genre nous avons une vocation universelle. Les Français aiment bien se dire ça entre eux, mais si c'est vrai, ce n'est pas la peine de le proclamer, et si ce n'est pas vrai, c'est ridicule. Bon. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que ce soit fondé sur l'autodénigrement, sur le fait qu'on n'a plus d'influence sur rien et qu'on ne compte plus, ce qui n'est pas vrai. Donc là, et le fait que ce pays ait tellement de mal à trouver les mots pour décrire cette réalité est un signe en soi. Il faudrait qu'on en sorte.
L'hyperpuissance, c'est peut-être le mot que vous avez trouvé pour justement distinguer la tête.
Oui, alors ça c'est... On peut contester le mot, mais il est évident que les États-Unis sont dans une catégorie à part, qu'elle est la première, une catégorie unique. Je l'avais dit d'ailleurs, je le rappelle ici de façon non critique. C'était sous Clinton en 98. C'est pour dire que c'est la plus grande puissance et la puissance est la plus complète qu'on ait jamais vue. À aucune époque, elle se compare à rien d'autre aujourd'hui. Même autrefois, dans l'Antiquité, l'Empire romain pouvait ne pas tenir compte de l'Empire chinois et réciproquement. Là, on est dans un monde global. Et donc, ce n'est pas une attaque contre la politique de Bush. Ça, c'est complètement différent. Et après, je crois qu'il y a une dizaine de puissances qui sont des puissances globales, et qui ont des tailles variées, on n'a pas la taille de la Chine, mais qui, grâce à leur participation au Conseil de sécurité, ou au G7, ou leur capacité militaire, ou leur rayonnement intellectuel, culturel, linguistique ou scientifique, ou leur position, ou l'enjeu qu'elles représentent, comme Israël par exemple, il y a des puissances qui ont un poids beaucoup plus considérable que leur poids statistique. Et la France en fait partie. Et c'est une catégorie d'une dizaine, hétéroclite, mais c'est une catégorie. Donc être dans les 10 premiers à peu près tout le temps sur tous les sujets, c'est pas ridicule. Il n'y a pas de raison de raser les murs, il n'y a pas de raison de perdre confiance en nous. Il n'y a pas non plus de raison de pérorer, d'autant que ça ne marche pas. Voilà, je cherche ça, le point d'équilibre là-dessus.
Si on le prend le cas du Proche-Orient, précisément, vous avez cité Israël, dont on sait qu'évidemment les États-Unis jouent un rôle particulièrement de premier plan dans la résolution de toutes ces questions. Comment se situe la France sur ce théâtre-là? Est-ce que quand elle agit vraiment? Ou bien est-ce que le seul maître à bord, ça reste Washington?
Non, le seul maître à bord, ce sont les Israéliens. Parce que la question centrale du Proche-Orient, c'est de savoir si un jour, les Israéliens finiront par accepter d'évacuer l'essentiel des territoires occupés et de laisser se construire un État palestinien. Ça, c'est le grand débat au sein de la politique israélienne depuis qu'ils ont conquis ces territoires en 1967. Donc, est-ce qu'il faut les intégrer, les coloniser, les rendre inséparables et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas d'État palestinien? Alors, pour les Israéliens qui défendent cette ligne, notamment les gens du Likoud, tous les arguments seront utilisés pour dire que ce n'est pas possible de lâcher les territoires, il n'y a personne en face, que ce sont que des terroristes ou que le chaos ou que la corruption, etc. Et pour l'autre ligne qui était celle d'Yitzhak Rabin, qui a été... de façon plus confuse, mais quand même celle de Barak, quand il est Premier ministre, et qui est celle du travailliste, en gros, qui est celle du mouvement de la paix, qui est celle de beaucoup de journaux en Israël comme Haaretz, et qui est celle de l'opinion. On l'oublie trop souvent. La majorité des Israéliens acceptent maintenant, depuis 7 à 8 ans, par des sondages répétés, l'existence d'un État palestinien viable. Donc ça, c'est la question centrale. Bon, ça, la France ne peut pas le trancher à leur place, et puis les Israéliens n'aiment pas que les Européens se mêlent de leurs affaires, ils deviennent assez facilement agressifs. Et on peut comprendre qu'ils disent « c'est nous, on est là, c'est des questions de sécurité vitale pour nous, c'est à nous de trancher bon. ». Donc la France peut donner des avis, peut donner des conseils, elle peut parler. De Gaulle avait dit en 67, ça a été contesté, mais en gros ce qu'il avait dit en 67, c'est ce qui s'est produit après. dans l'engrenage occupation, répression, résistance ou terrorisme, comme on veut. Bon. Mitterrand a eu une importance vraie quand il a été le premier dirigeant occidental en 82 à parler d'un État palestinien, à la Knesset d'ailleurs, en Israël. Mais d'ailleurs, ça résume toute la suite parce que Begin, le chef de la droite israélienne, le chef du Likoud, l'unificateur des droites, le créateur du Likoud, il avait dit « La seule chose qui s'oppose à une très bonne entente entre la France et Israël, c'est votre soutien à un État palestinien. » Ce qui fait que dans toute cette longue période, depuis quand il y a eu une droite dure au pouvoir, elle a été extrêmement agressive, je parle de la droite israélienne, avec tous les Européens qui soutenaient l'idée d'un État palestinien. Et quand il y a eu les travaillistes, quand il y a eu les efforts extraordinairement intelligents et courageux de Rabin, ou bien Peres, ou bien Barak, il n'y a jamais eu ce problème. Il n'y a pas eu d'agressivité de principe des Israéliens contre les Européens et contre la France. Bon, c'est un sujet très compliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que personne à l'extérieur peut régler le problème à leur place. Et comme on ne demande pas aux Palestiniens d'évacuer les territoires israéliens justement occupés, mais l'inverse, ça démarre bien des Israéliens. Donc c'est un choix historique à faire en eux-mêmes. Et bien sûr, pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils soient aidés, encouragés, qu'ils trouvent le soutien d'une politique américaine intelligente, celle que nous avons connue ces dernières années est la plus tragique et la plus néfaste depuis 1945, à mon avis, en tout cas dans cette zone, dans la zone du Moyen-Orient, parce qu'ailleurs, l'Amérique a une politique nationaliste classique, qui n'est pas mauvaise et qui a des résultats, comme en Corée, par exemple, ou ailleurs. Mais là, il y a vraiment une politique folle, idéologique, obstinée. Mais le Premier ministre israélien qui aura le courage de réentreprendre ce que Rabin avait tenté, il a besoin d'un soutien vrai des États-Unis, du genre Jimmy Carter autrefois, du genre Clinton de la fin des derniers mois, et des Européens s'ils l'acceptent. Mais sinon, les Européens peuvent aider les Palestiniens à se constituer en un État sérieux. Mais demander aux Palestiniens d'être un État sérieux, normal, gérant ses affaires et assurant la sécurité avant ce processus, ça c'est un... Si on cherche un exemple de cynisme, le voilà. Ça c'est vraiment une précondition inventée pour que le processus n'ait jamais lieu. Alors la France, elle peut proposer, accompagner, encourager, être là, participer à des garanties, parler, faire circuler des idées, mais elle ne peut pas se substituer aux acteurs centraux.
Est-ce l'intérêt des États-Unis de soutenir à ce point Israël ?
Ça, c'est à eux de voir, ça. C'est à eux de voir, mais il y a de temps en temps un débat, il y a de temps en temps un dirigeant américain qui arrive à dire « notre soutien à Israël est absolument indéfectible sur le plan à la fois financier » et militaire, il n'empêche qu'on ne peut pas soutenir n'importe quoi dans la politique israélienne. Donc de temps en temps, il y a Nixon-Kissinger, ou bien Carter, ou bien Bush numéro 1 et James Baker, ou bien Clinton à la fin, qui dit « notre soutien à Israël ne va pas jusqu'à soutenir tel ou tel aspect de votre politique qui, à notre avis, n'est pas le bon ». Bon, il y a des moments comme ça. Il y a des moments, on l'a vu avec Bush et Sharon, où il n'y a aucune distinction. D'ailleurs, quand Sharon a lui-même conclu que c'était impensable, impossible de vouloir dominer les Palestiniens jusqu'à la fin des temps et qu'il fallait se résigner à quitter Gaza, puis il aurait été plus loin s'il n'avait pas été frappé par une attaque. Il l'a fait lui, ce n'est pas les Américains qui lui ont imposé. C'est Sharon qui a compris une partie de ce que Rabin avait compris 10 ans avant. Il l'a fait contre son parti. Il a dû quitter le Likoud. Le Likoud a commencé à le menacer des pires choses et les mêmes extrémistes commençaient à le menacer, y compris physiquement, comme ils avaient menacé Rabin quelque temps avant son assassinat. Je suis convaincu que Sharon, qui n'était pas un illuminé, mais un nationaliste dur et un militaire connaissant les réalités du terrain, aurait été plus loin et qu'il aurait accepté l'idée de... Il aurait endossé l'idée de l'évacuation de la plupart des territoires. Il ne voulait pas négocier avec Arafat parce qu'il y a une sorte de haine personnalisée dans leur cas, mais je suis sûr qu'il aurait fini par accepter l'idée d'une négociation entre Israéliens et Palestiniens, parce que pour la sécurité des Israéliens, il fallait quand même qu'il y ait des gens en face.
Bien sûr.
Donc il aurait mis fin à cette politique consistant à les détruire sans arrêt pour prétexter de leur destruction le fait qu'on ne peut pas parler avec eux. Je crois qu'il aurait élaboré une autre... Il y a eu plusieurs tragédies quand même dans toute cette affaire-là. L'assassinat de Rabin est une épouvantable tragédie, c'était vraiment le grand homme d'Israël, et lui il aurait fait l'accord. Le cafouillage de l'année 2000... où il y a des erreurs d'Arafat évidentes, mais des erreurs de Barak évidentes aussi, et puis une mobilisation de Clinton insuffisante et trop tardive, et puis la lâcheté des Arabes de l'époque, il a fallu attendre des années pour que les Saoudiens disent maintenant ce qu'il faut dire, mais maintenant qu'il le dit, il n'y a plus des protagonistes ailleurs. Et puis là, l'attaque qui a frappé Sharon, c'est une autre tragédie. Mais enfin, ça reviendra, ça se fera un jour ou l'autre, je pense.
Hubert Védrine, on se retrouve dans quelques minutes.
Pour la commémoration du 50e anniversaire de la mort de Valérie Larbaud, Michel Déon de l'Académie française est venu à Canal Académie. Et lorsque Michel Déon évoque Valérie Larbaud, on sent tout le plaisir qu'il éprouve à lire et à relire ses écrits. Michel Déon, qui collectionne toutes les éditions des œuvres de l'écrivain, décrit le contenu de la bibliothèque de Larbaud et détaille les qualités littéraires pour lesquelles il apprécie l'auteur de « Jaune, blanc, bleu » et de 200 chambres, 200 salles de bain. Un style limpide, quelqu'un qui nous parle à l'oreille, un homme qui porte attention à la beauté des choses et un polyglotte reconnu. Et le moindre intérêt de l'émission n'est pas d'écouter Déon lui-même s'expliquer sur la lecture, le plaisir de flâner à la recherche d'une édition rare et la quête de la beauté. Cette émission est en libre téléchargement sur Canal Académie.
Éclairage avec Hubert Védrine, donc pour son dernier essai paru aux éditions Fayard, Continuer l'histoire, une réponse en quelque sorte à Francis Fukuyama que vous avez cité tout à l'heure, qui pensait que l'Occident avait gagné la bataille de l'histoire, c'est le terme que vous employez, et que leurs valeurs allaient s'imposer partout. Leurs valeurs, ce sont celles des Occidentaux. Il va falloir se résigner à une vision plus réaliste des choses. Hubert Védrine, vous pensez que la démocratie ne se développe pas de manière naturelle, endogène, contrairement à une certaine vision messianique qui porte les droits de l'homme et les couleurs des droits de l'homme haut dans le monde et qui est bien française?
Je profite de votre question pour dire ici que je ne suis pas relativiste. Je suis aussi démocrate que les ONG les plus convaincus et je suis aussi attaché aux droits de l'homme qu'elles. Mais c'est sur le prosélytisme que je m'interroge. Mais je ne dis pas que les Arabes ne sont pas mûrs pour la démocratie ou les Chinois ne s'y intéressent pas. Je ne dis pas non plus que l'excision est une pittoresque coutume qu'il faut respecter parce que c'est comme ça dans l'Afrique de l'Ouest et il n'y a rien à y changer. Je ne raisonne pas comme ça du tout. Mais je suis obligé de constater que les valeurs que nous estimons universelles, qui sont les nôtres et qui ont une vraie dimension universelle par certains aspects, ne sont pas universellement reconnues comme telles. Donc ça pose un problème au moins d'efficacité, si ce n'est de légitimité. Je constate par ailleurs que nos pays qui ont mis des siècles à devenir des pays démocratiques, et en tout cas deux siècles depuis la Révolution, qui ont été quand même très longs sur beaucoup de plans, par exemple 150 ans entre les premières élections de 1795 et le vote des femmes de 1945, puis on pourrait prendre des tas d'autres exemples, et si on prenait le début avec les franchises communales au XIIIe siècle, c'est encore plus de deux siècles. On se comporte depuis 1945, et encore plus depuis 1989-91, comme si la démocratie était un kit facile à assembler et qu'on peut imposer comme ça du jour au lendemain. À coup de conditionnalité, comme fait l'Union européenne pour son aide, ou de discours sur les droits de l'homme, voire à coup de bombardement, comme les Américains. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas que Bush qui pense ça. C'est trop facile de dire Bush a mené une politique absurde, il va partir bientôt. Beaucoup d'Américains pensent ça. J'avais ce débat et ce désaccord avec mon amie Madeleine Albright. C'est à elle que j'avais dit, c'est pas du café instantané. Puis j'ai découvert après que le grand écrivain américain, Octavio Paz, latino-américain, avait dit longtemps avant à un autre secrétaire d'État, c'est pas du Nescafé la démocratie, ça se construit. Bon, donc j'essaie de mettre le débat sur ce terrain. On m'a souvent empêché de le développer en disant c'est du relativisme, comme si je me fichais de la démocratie. Je le répète, c'est pas du tout le cas. Il faut quand même regarder les prêches que nous faisons pour les droits de l'homme ont eu finalement très peu d'influence sur la vie de la Russie, de la Chine, du monde arabe, de l'Afrique, de beaucoup d'endroits. Le système soviétique s'est effondré par un fiasco économico-politique de l'intérieur. S'il avait assuré la prospérité des Russes, il ne serait toujours pas tombé, hein, même sans la démocratie. Donc ça ne marche pas. On n'a pas tellement plus de résultats que les missionnaires catholiques, qui n'ont pas tellement converti de Chinois hein, ou de musulmans. Donc je propose une réflexion là-dessus. Et pour moi, il faut essentiellement renforcer le potentiel de démocratisation qui est interne à chaque société. Donc il faut trouver une façon de l'extérieur qui soit ouverte, qui soit fraternelle, qui soit pas condescendante, qui soit pas forcément violente. Et après, il y a toute une gamme dans la façon de se comporter avec tel ou tel pays arabe ou d'Afrique ou d'Asie etc. Mais moins, une façon moins prétentieuse. Mais cette réflexion a du mal à se frayer un chemin, et les médias occidentaux sont très, 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 très offensifs là-dessus, très, très sûrs d'eux, et tout le monde pense que faire des élections quelque part, c'est formidable, mais les élections, c'est une technique. C'est la technique démocratique. La culture démocratique, c'est que la majorité respecte la minorité. Ça ne se construit pas en une élection. Donc je suis pour ça, mais d'une façon moins intrusive, moins arrogante, moins prétentieuse que ne l'ont fait les Occidentaux depuis quelques décennies, avec presque aucun succès.
Comment...
Je suis plutôt pour des partenariats.
Et une façon peut-être beaucoup plus indirecte de soutenir des éléments qui deviendront des élites dans les sociétés civiles et qui peut-être
prendront
des
décisions.
Ça, c'est très
bien. Il faut d'ailleurs distinguer les cas.
Ça s'est fait d'ailleurs, vous avez beaucoup de cas.
Ah oui,
où l'Occident a favorisé de réels. Parce que généralement, ce sont des universités américaines qui forment.
Ah non, depuis
les
très, très, très longtemps, nous avons formé dans nos écoles les gens qui sont devenus les leaders. Ça n'a pas toujours bien marché. Par exemple, Pol Pot avait fait des études à Paris. Vous voyez. Il y a eu aussi cette génération de dictateurs formés à Paris. Mais la formation des élites qui essaient d'acclimater chez elles après les idées de république ou de démocratie, en tout cas de droit de l'homme, c'est une constante. Ça fait très, très, très longtemps que ça dure. C'est indémêlable. L'Occident, ce n'est pas simplement
un
colonisateur qui a écrabouillé. Et non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui ont été formés dans tous les pays d'Europe.
Mais aujourd'hui.
Et qui portent. Ah, aujourd'hui. Sauf que c'est moins vrai depuis le 11 septembre, parce que l'interprétation du terrorisme international par les États-Unis fait que c'est tellement décourageant d'aller aux États-Unis. C'est tellement long, difficile, désagréable. On est tellement soupçonné que vous avez des courants de formation qui se réorientent des États-Unis vers l'Europe. Regardez ce que Sciences Po Paris fait avec la péninsule arabique. Et il y a beaucoup de courants vers l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, bien sûr. On ne peut pas raisonner comme si on était, nous les Occidentaux, les maîtres du monde. On est sur une sorte d'Olympe. Et la seule question qui est importante, c'est uniquement de porter assistance au peuple qui souffre. Je suis d'accord, il faut le faire, bien sûr. Et puis répandre nos idées partout, par différents moyens. Nous avons à nous préoccuper, en tant qu'Occidentaux, je dis ça pour revenir à l'histoire de l'irréal politique, pour expliquer d'un mot pourquoi j'ai mis ça en avant, c'est parce que notre place n'est pas assurée, en fait. Donc on croit qu'elle est assurée de toute éternité, et on a à trancher des problèmes des autres, et à s'occuper d'eux avec paternalisme. Et en fait, si on
une
regarde
forme d'aveuglement,
monde,
là.
Il y a de l'aveuglement, parce qu'on ne voit pas qu'il y a un train qui en cache un autre, et l'autre train est plus gros, et c'est celui du monde multipolaire. Et d'un monde multipolaire qui peut se faire sans nous. Et pour le coup, on n'y gagne rien. Si la suite de l'histoire se passe entre les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde maintenant, la Russie qui est de retour, peut-être le Brésil, peut-être le Mexique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, avec un monde arabo-musulman qui tourne en rond, mais qui est quand même plutôt hostile aux Occidentaux ou défiant, et les Européens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que pourrait être une Europe puissance. Il y a un monde multipolaire, de facto, mais qui nous contourne. Et qui contourne le monde arabe aussi. Donc ça, c'est un monde dans lequel l'Europe ne sera pas une puissance. Puis les opinions publiques européennes ne sont pas encore convaincues qu'il faille faire une puissance. C'est un terme qui les inquiète. Elle sera donc impuissante, elle sera donc dépendante. Et la suite du match se passe sans nous. Et on ne peut pas faire une grande Suisse, ça ne marchera pas, parce que... On ne peut pas s'isoler du reste du monde et nous finirons par ne même plus pouvoir défendre notre mode de vie. Donc moi, je suis pour un... Je parle clair et dur là-dessus, parce que je crois que nous avons besoin d'un sursaut des Européens qui comprennent que tous ensemble, non pas en abdiquant leur identité, mais en la faisant converger, tous ensemble, nous avons besoin de peser dans ce monde multipolaire. Sinon, il va se construire de plus en plus à notre détriment.
Alors justement, c'est ma dernière question. Que pensez-vous de cette initiative dont Nicolas Sarkozy s'est fait l'écho, de l'euro-méditerranée, que l'Europe aille chercher ses frontières au-delà de celles qui l'emmènent vers les pays baltes et vers la Bulgarie, et qu'elle prenne conscience qu'un monde est beaucoup plus proche, le monde le plus proche en tout cas pour nous, c'est plus la Méditerranée que la Baltique.
J'approuve l'idée qu'il faille faire quelque chose de différent du processus de Barcelone qui ne donne pas de résultat en ce qui concerne la Méditerranée. J'approuve cette idée. Nicolas Sarkozy a fait des discours importants pendant sa campagne, mais aussi Ségolène Royal, mais aussi Strauss-Kahn et beaucoup de gens. Et il y a une floraison d'initiatives sur ce plan, mais dont aucune n'a complètement marché jusqu'à maintenant. Donc j'approuve absolument l'idée de tenter cette démarche. Après, il faut la clarifier. Alors ce que j'ai compris des propos du président, c'est que lui, il conçoit ça comme une entité en soi. et non pas comme un prolongement de l'Europe. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais je sais que l'Union européenne en tant qu'institution n'est pas d'accord avec ça, et que la Commission, le Parlement, plusieurs États membres importants feront tout pour que ce soit une politique de l'Europe, une politique de voisinage. Mais on reste dans le paternalisme. C'est l'Europe qui veut bien, dans sa générosité, étendre ses politiques et son aide à d'autres. Là où l'idée de Sarkozy est forte, c'est de dire qu'il faut faire un traité en soi. Alors ça voudrait dire les riverains de la Méditerranée.
Mais qui déplace le curseur donc.
Non, c'est autre chose. Il ne déplace pas le curseur. L'Europe continue, l'Union européenne continue. Nicolas Sarkozy dit aussi là-dessus, je ne sais pas par esprit de, pour l'approuver systématiquement, mais je suis d'accord également sur ce point, l'Union européenne doit absolument avoir des limites quelque part. Si c'est un ensemble gazeux qui s'étend sans fin, il n'y aura plus aucun sentiment d'appartenance et le projet européen est mort. Bon, donc il faut que ça s'arrête quelque part logiquement. Et lui, il a proposé de construire quelque chose à côté en plus, où il y aurait les riverains, naturellement la Commission serait là pour représenter l'Europe, je pense que c'est dans son idée, mais il y aurait les pays riverains qui feraient un traité ensemble et qui travailleraient ensemble sur des sujets, d'abord l'environnement, et puis peut-être la gestion en commun, négocier des mouvements migratoires, et puis des tas d'autres sujets, en laissant les sujets politiques les plus durs, comme le Proche-Orient, pour après, sinon rien ne marchera. Bon, c'est extrêmement intéressant, mais son projet est handicapé par plusieurs défiances qui existent, mais que peut-être il va surmonter, on verra, c'est intéressant. D'abord, les Turcs pensent que ça n'est inventé que pour leur faire avaler la pilule du refus de leur entrée dans l'Europe. Peut-être qu'ils ne rentreront pas, parce que les négociations n'aboutiront pas, eux-mêmes sont exaspérés par les demandes européennes, ou bien certains pays européens voteraient non le moment venu, mais en tout cas, le dire aujourd'hui, c'est anticiper sur ce mouvement, ça donne l'impression que c'est la France qui bloquerait ce mouvement. Donc son projet est regardé avec suspicion par les Turcs pour cette raison. Donc à lui de démontrer que ce n'est pas le cas, que c'est autre chose. D'autre part, il a la réputation d'être pro-israélien, ce qui d'ailleurs est parfaitement compatible avec le fait d'avoir une bonne politique avec les pays arabes, mais une partie des pays arabes, comme Mitterrand l'a montré par exemple, mais une partie des pays arabes voit ça avec inquiétude en demandant comment ça va se traduire, par quoi, par quelles attitudes. Et s'il considère que c'est une invention pour faire oublier le fait que la France aurait une politique pro-israélienne au sens trop indulgente par rapport à la politique de la droite israélienne, qui ne veut pas d'État palestinien, ça créerait un climat peu réceptif. Bon, mais là aussi, il peut surmonter ça, et il peut démontrer que la synthèse peut être positive et non pas négative. Mais ce n'est pas joué d'avance. Il y a donc réticence des institutions européennes, réticence de la Turquie, attitude mi-figue, mi-raisin, des Arabes donc du sud de la Méditerranée. Mais rien de tout ça n'est insoluble. C'est intéressant de tenter, parce que je crois, moi aussi, que la politique méditerranéenne ne peut pas être simplement une annexe de la politique européenne et une sorte de politique généreuse, périphérique, accessoire et paternaliste. Ça ne suffit pas.
Merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu nous parler ici même à Canal Academy pour votre dernier essai intitulé « Continue l'histoire » aux éditions Fayard.